Le châle vert, chapitre 2. À cette époque où les habitués de Chantilly n'avaient pas encore, pour retourner à Paris après les courses, la voie si commode et si rapide du chemin de fer, la jeunesse brillante attendait le lendemain pour regagner la capitale, et cette dernière nuit se passait au milieu des bas, il faut le dire, très bruyants. Les pétards, les fusées éclataient de tous côtés dans les rues. On prenait à l'assaut des maisons dont les habitants amis se défendaient vaillamment. On buvait un peu, on dansait beaucoup, on jouait trop. Tel maître de maison, pour mieux faire les honneurs de sa demeure provisoire, avait amené de Paris 3 belles hôtesses, également vêtues aux couleurs de sa livrée, lesquelles l'aidaient à recevoir. Tel autre avait la singulière idée de donner une chasse à cour au beau milieu de la nuit dans les rues paisibles de Chantilly, et voilà qu'une bande d'écervelés, montée sur des chevaux excellents, munis de trompes étourdissantes, armés de torches, se mettait à parcourir la ville au triple galop, sonnant des fanfares, poussant des hurrahs, réveillant enfin par un épouvantable vacarme les bons bourgeois, qui entr'ouvraient de loin en loin leurs fenêtres, et apparaissaient un bougeoir à la main, la figure bouleversée, le chef coiffé d'un bonnet de coton. Qu'on devine les rires et les sérénades qui accueillaient ces apparitions burlesques. Aux heures de ces saturnales, les sportsmen se croyaient tout permis, sans plus de soucis que leurs prêtres. Ils eussent, en dépit de la Bastille, rossé le guet, mis en fuite la maréchaussée. Ladislas, au sortir de l'émouvante conversation que je vous ai racontée, s'était machinalement dirigé vers la petite place où commençait le tapage. Un peu préoccupé d'abord, il fut bientôt distrait par l'entrain bachique des rieurs, et comme il n'était point d'un tempérament morose, la gaieté générale le gagna. Ce soir-là, comme les autres, et plus que les autres, il se mêla aux divertissements accoutumés. Il était, à tout prendre, fort content de sa journée, fort content aussi de lui-même. Les événements l'avaient servi à merveille, et il avait aidé les événements non sans audace. La dernière escarmouche lui semblait décisive, et l'avenir ne lui paraissait pas si désespérant qu'il dut renoncer aux joies du présent. Il passa donc chez les dames en livrée, il combattit au siège qui fut fait de la maison d'un de ses amis, je crois même, Dieu me pardonne, que pour justifier le mensonge fait à M. de Mortemer, il chassa par les rues au grand galop de son cheval, sonnant du corps à pleine poitrine et criant à la lie de toute la force de ses poumons. Ces divertissements carnavalesques eurent un terme pourtant, et après avoir dansé, crié, couru, Ladislas songea qu'il était temps de dormir. Alors seulement cette pensée lui vint qu'il avait donné sa chambre et qu'il n'avait pas un oreiller où reposait sa tête. En elle-même, cette pensée n'avait rien de fort inquiétant pour lui, mais elle ramena dans son imagination le souvenir un instant oublié de la belle Polonaise. Cette douce et piquante image lui fit regretter ce qu'il venait de faire. Elle le rendit confus, elle lui donna presque un remords. Là du bruit, ramené à de plus délicates idées, à de plus mystérieuses jouissances, il s'éloigna de la foule et se prit à errer seul et rêveur. La nuit était pure, étoilée, mais sans lune. Au loin, une molle brise pleurait dans la grande forêt silencieuse. La vaste pelouse, si animée quelques instants auparavant, était déserte à cette heure. On entendait seulement dans le lointain les cris de joie des plus intrépides civiveurs et la chanson des promeneurs attardés. L'œil pensif, l'œil esprit distrait, le cigare à la bouche, Ladislas marchait à pas lents et s'avançant au hasard. Sa bête le ramena, presque à son insu, vers le petit jardin servant d'entrée à la maison qu'il avait habitée et qui renfermait la dame de ses pensées. Arrivé en face de la grille, il s'aperçut que son ancienne chambre était encore éclairée, que la croisée en était ouverte et bientôt une ombre, dont la sveltesse le fit tressaillir, lui prouva, en traversant ce petit centre lumineux, que là non plus le sommeil n'avait pas encore pénétré. Caché dans l'ombre et par la grille, l'œil tendu, l'oreille au guet, pouvant tout voir sans être vu, Ladislas se trouvait dans une situation qui d'ordinaire éveille la curiosité des plus indifférents. La sienne, comme on pense, n'avait pas besoin d'être excitée, et je laisse à deviner combien son attention fut intense bientôt et son immobilité complète. La silhouette qu'il avait entrevue était bien celle de la jeune Polonaise. De moment en moment, la belle inconnue se montrait, traversant l'appartement éclairé. C'était donc sa chambre qu'elle habitait. Une dernière fois, elle apparut, couverte d'un long châle, sans doute le fameux châle vert, et elle vint s'accouder sur le petit balcon formé par la saillie de la croisée. Elle y resta longtemps, les bras croisés, la tête pensive, regardant les étoiles, respirant l'air embaumé de la nuit. « C'est bien elle !» se dit Ladislas. « C'est bien elle !» Cette chimère que j'ai poursuivie si longtemps, la voici réalisée, enfermée dans ma chambre, accoudée à ma propre fenêtre, rêvant, qui sait, rêvant à moi peut-être, à moi qui suis à 20 pas d'elle, à moi que tout encourage, la nuit, le silence, le mystère. Ce baiser si audacieusement obtenu, l'émotion réciproque qu'il avait causée, la singularité de toute cette aventure, la beauté de la jeune femme, le parfum enivrant de ses cheveux qu'il croyait respirer encore, tous ces souvenirs revinrent à son esprit et firent battre son cœur. Puisque le sort l'était jeté, pourquoi ne poursuivrait-il pas sa chance? Pourquoi, jeunes tous deux livrés dans ce moment à la même pensée, séparés par quelques pas à peine, reprendraient-ils point la faveur de la nuit, la conversation trop rapidement interrompue? Il fallait au moins le tenter. La crainte d'épouvanter, l'ombre rêveuse du balcon, et de la faire disparaître en l'épouvantant, retenait seul notre amoureux. Si je pénètre dans le jardin, pensait-il, et si je me fais reconnaître, elle fermera sa croisée et disparaîtra sans doute. Mais d'un autre côté, si je ne dis rien, si je quitte sans me montrer, sans maudire la place où je suis, si je m'en vais aussi discrètement que je suis venu, qui gagnerai-je? Le résultat était le même à peu près, et il y avait avantage encore à tenter la fortune. Il prit un grand parti. Appuyant le doigt sur le loquet de la porte grillée qui se trouvait auprès de lui, il l'ouvrit et entra dans le jardin à pas de loup. Arrivé presque au-dessous du balcon sans avoir été positivement reconnu, « Comment va ce soir, madame de Mortimer » a-t-il dit à coup d'un demi-voix. Interdite, en reconnaissant Ladislas, au fond plus surprise que mécontente de son infatigable persévérance, inquiète surtout du caractère mystérieux de cette entrevue nouvelle et si peu prévue, La blonde rêveuse recula d'un pas sans rien dire. Puis, songeant sans doute qu'en gardant le silence à propos d'une question si naturelle, elle témoignait plus de crainte qu'il n'était prudent d'en montrer, elle posa une main sur l'espagnolette de la fenêtre qu'elle ferma à demi et répondit d'une voix assez calme que son ami allait mieux. « Si j'en crois vos prévisions, continua Ladislas, il n'y aura donc que moi seul de malade demain matin, car, vous l'avez dit, au bout de nuit passée dehors, on peut bien, fort bien, trouver la fièvre. Ne vous moquez pas de moi, reprit l'interlocutrice, qui, mesurant du regard la distance qui la séparait du jardin, commençait à se rassurer. Ne vous moquez pas de moi. Vous ne me ferez pas croire que vous ne puissiez aller coucher quelque part. Oh, quelque part, madame, je n'y vais jamais. Feignant de ne pas comprendre cette boutade, la jeune femme déclara qu'elle allait prévenir M. de Mortemer et qu'il leur serait facile de laisser une des chambres à la disposition de leur ancien propriétaire. « Je vous conseille de prévenir M. de Mortimer. Il me croit à la chasse à 6 lieues de Chantilly. En apprenant que je suis au contraire ici à 7 heures de la nuit, causant avec vous sous ce balcon, il sera sûrement fort charmé et très édifié. Il manquerait plus que cela, ajouta tout bas Ladislas. Si le vieux Pandour me surprenait ici roucoulant en espagnol, Dieu sait si votre comédie ne tournerait pas au drame. À peine avait-il pensé ces choses, et son interlocutrice ne lui avait pas encore répondu, que la clé tourna bruyamment dans la serrure et la porte de la maison s'entr'ouvrit. Ladislas s'effaça rapidement contre la grille qui courait le long du mur. Une servante parut qui portait à la main un falot. Elle referma la porte à double tour, se dirigea d'un pas rapide vers la porte de la grille, sortit, donna 2 tours de clé à cette seconde porte et, longeant la pelouse, disparut bientôt. « Je suis pris !» se dit Ladislas. Et cette sorte de créature, qui, faute de chambre, va coucher je ne sais où, son ouvrage fini, me coupe la retraite. Il faut que je passe la nuit dans le jardin ou que le diable m'emporte. Après cette alerte, quand il leva les yeux vers le balcon, il s'aperçut que la croisée s'était silencieusement refermée. Vous avez eu peur, madame, se dit-il encore. « Donc votre pensée était coupable. » Cette supposition de la complicité mentale de sa belle ennemie, à un degré quelconque, le fit sourire. Après être resté un moment immobile entre les feuilles sombres de la treille et s'être assuré que le plus profond silence régnait de nouveau, dans l'intérieur de la maison comme au dehors, il quitta sa cachette. Si la silhouette élégante ne se montrait plus à la croisée, la lumière du bois n'était pas éteinte, et la chambre continuait d'être éclairée. Ladislas ramassa dans l'allée des grains de sable et s'appliqua à les lancer contre les vitres illuminées. Bien qu'à 2 reprises il eût entendu le choc argentin de ces petits projectiles rencontrant leur but, rien ne se montrait. Il renouvela, sans se lasser, son expérience. À la fin, pourtant, l'ombre parut, et la fenêtre se rouvrit sans bruit. « Mais vous êtes fou, méchant, monsieur. dit une voix moitié émue et moitié grondeuse. « Quand vous aurez brisé ces vitres et réveillé toute la maison, qu'aurez-vous gagné ?»« Ah, permettez, madame. Si vous aviez ouvert au premier grain de sable, le second ne vous aurait point impatienté. C'est bien le moins qu'on dédommage par la conversation un pauvre diable prisonnier comme moi. » La situation où je suis, grâce à cette Maritorne, est fâcheuse, et plus fâcheuse pour vous que pour moi. Faut bien aviser au moyen de s'en tirer. Entre ces grilles, je suis exactement comme un oiseau dans un trébuchet, et à l'ouverture de la cage, demain matin, on ne laissera pas d'être surpris de m'y trouver. Et votre conduite est ridicule, interrompit l'interlocutrice avec des larmes dans la voix. Vous me perdez de gaieté de cœur. C'est une infamie, monsieur. Ce n'est pas le moment de se désoler, madame. Ce qui est fait, il y a moyen encore de réparer mon étourderie. Et ce moyen, si j'osais vous le proposer. Mais parlez, quel est ce moyen? Oh, vous vous fâcherez, madame, et je n'ose vous le dire. La discrétion vous prend un peu tard, monsieur. Bien, ce moyen est fort simple, et le voici. La mansarde où couchait mon domestique est restée vacante. Je puis la gagner et m'y cacher jusqu'au soir. Après quoi, je m'échapperai sans peine. Mais comment entrer puisque la porte est fermée? Ah, c'est là que mon moyen se place. Je suis fort leste, madame, et cette treille peut me servir d'échelle. Si vous voulez me permettre de monter jusqu'à votre fenêtre et de traverser votre chambre, je gagnerai le corridor et la mansarde en question. Mais si vous êtes si agile, monsieur, il est un moyen plus simple encore que n'escaladez-vous la grille. Les barreaux peuvent vous servir d'échelle aussi, et vous gagnerez les champs. Vous êtes bien bonne, madame, et vous ne pensez pas aux pointes de ces barreaux. Oh, je n'ai pas de goût pour le pal. Et si demain on me trouvait embauché vis-à-vis de vos fenêtres, vous ne seriez pas très avancé. Ni moi non plus. La discussion se prolongea quelques moments encore. La jeune femme refusait absolument ce singulier droit de transit. Ladislas, de son côté, déclarait qu'il ne franchirait pas la grille. « Eh bien, vous coucherez dans le jardin, » disait-on d'en haut. « Soit, » répondait-on en bas. Et demain, quand on me demandera ce que j'ai pu faire toute la nuit dans ce parterre, je répondrai que j'ai la passion des dahlias et l'habitude de les cultiver pendant la nuit. De guerre lasse, ne sachant plus que répondre, comprenant que cette discussion devait avoir un terme, que M. de Mortemer ne pouvait être appelé, que Ladislas ne devait pas rester dans le jardin, qu'il était fort capable d'ailleurs de monter malgré elle, la tête perdue d'inquiétude, la jeune femme consentit, avec beaucoup d'embarras, à accorder le passage, à condition bien entendu qu'elle quitterait la chambre et qu'elle se retirerait chez son amie, sous prétexte de lui demander de ses nouvelles pendant le temps nécessaire à cette escalade fort ridicule à son avis. À peine ces conditions consenties, Ladislas empoigna le treillis et se hissa avec une telle rapidité vers la fenêtre, d'ailleurs peu élevée, que la jeune femme effarée n'eut que le temps de sortir à la hâte en portant la lumière. Comme elle fermait la porte, il enjambait le balcon et entrait triomphalement par la croisée. Arrivé dans cette chambre si convoitée, notre amoureux n'avait aucune hâte de sortir. Il s'avança à tâtons et rencontra la cheminée. Sur cette cheminée, ses doigts touchèrent une boîte d'allumettes. Il la mit à tout hasard dans sa poche. Le plus brave est ému dans une pareille situation. Marchant avec précaution, redoutant le craquement du parquet, retenant son haleine, Ladislas écoutait à chaque pas avec anxiété. Il n'entendait que les battements précipités de son cœur. Tout à coup, il se heurta contre un meuble et une chaise roula bruyamment sur le plancher. Il lui sembla que la maison entière avait retenti. Les poings fermés, les yeux fixes, les oreilles tendues et comme dressées, il écouta. Le bruit d'un pas rapide se fit entendre dans le couloir. Oh, ce n'était point la démarche légère d'une femme qui venait. Il n'y avait point un instant à perdre. Il gagna la cheminée, tira brusquement à lui le devant de papier peint qui la cachait pendant la belle saison, se glissa dans l'entrebâillement et se blottit de son mieux entre les deux chenets. Les pas s'étaient éloignés, personne n'entra, et le silence se fit de nouveau. « Cœur de lièvre !» se dit Ladislas. « Pouh, quelle peur j'ai eue !» Puis il se prit à réfléchir que sa cachette en définitive était excellente. Il pouvait s'y accroupir passablement. Pouf, c'était un affût comme un autre. Si la jeune femme ne revenait pas, il en serait quitte pour passer la nuit dans sa chambre habituelle. Et si elle revenait, au contraire, trouvant l'appartement vide, ne se méfiant de rien, elle reprendrait courage. Et le monstre, madame, se mit à rire. Cela bien arrêté, Ladislas disposa les deux chenets de façon à s'en faire un siège. Puis, songeant que pour observer il fallait avant tout y voir clair, il eut l'idée de pratiquer dans le devant de cheminée une manière de Judas, d'œil de bœuf, un trou pareil enfin à celui qui permet aux acteurs de lorgner la salle à travers le rideau baissé. Une des allumettes dont il s'était emparé lui servit de tarière. Il l'enfonça dans la toile, creva le papier, puis il attendit. Ou il attendit longtemps, si longtemps, que sa patience s'enlaçait. Oh, me fera-t-elle jouer toute la nuit ce rôle de ramoneur ? Murmurait-il. Ou va-t-elle m'envoyer ici le vieux grognard ? Cette alternative qui se présentait pour la première fois à son esprit le fit tressaillir. Son imagination improvisa sur le champ la scène qui pourrait s'en suivre. Il se vit rampant honteusement hors de cette cheminée et répondant mal aux paroles sévères de l'officier. Heureusement, au bout d'une demi-heure à peu près, un frôlement attira son œil au petit trou. Il vit la porte s'ouvrir sans bruit. Une tête s'avança prudemment au-dessous d'une main armée d'une lumière et regarda avec curiosité dans la chambre. C'était la jeune Polonaise. Après cet examen préalable, elle entra sur la pointe du pied et fit deux pas, élevant pour mieux voir le chandelier qu'elle portait. Ladislas, tout yeux et tout oreille, retint sa respiration. Ne voyant rien d'inquiétant, la jeune femme avança vers la croisée. Elle rencontra la chaise renversée, la considéra un instant, se prit à sourire et regarda encore autour d'elle, puis elle vint déposer la bougie sur la cheminée. Ladislas sentit contre son œil le vent de sa robe de soie. Elle alla vers la fenêtre ensuite, observa longtemps le petit jardin, son allée, sa treille, ses massifs de fleurs. Enfin, elle ferma la croisée, puis revenant à la porte d'entrée, elle donna rapidement deux tours de clé à la serrure. Ses préparatifs de défense terminés, la jeune femme ôta son châle et toute souriante vint à la cheminée dénouer ses longs cheveux. « Nous y voilà !» se dit notre amoureux, tremblant d'émotion. « La porte est close, mais le loup est entré dans la bergerie. » Une semaine plus tard, Ladislas, revenu à Paris, se promenait à grands pas d'un air fort agité dans le logement de garçon dont nous avons parlé au début de ce récit. Il semblait en proie à la plus violente colère et vraiment, on se fâcherait à moins. Figurez-vous, madame, que 3 jours après son retour de Chantilly, car il lui avait paru convenable d'imposer 3 jours de patience à son empressement, il s'était rendu le cœur débordant chez madame de Mortemer. Et qu'avait-il appris? Il avait appris que monsieur et madame de Mortemer, appelés par des affaires très importantes, était parti la veille au soir pour la Pologne. Cela était un malheur supportable. Mais ce qui était affreux, c'est que la jeune Polonaise, dont il a pris le nom alors, était du voyage. Elle avait quitté Paris avec eux. « Partie, murmura-t-il, mais partie sans un mot, sans un souvenir, mais c'est une abomination !» Au dire du concierge, la blonde amie de madame Mortemer se nommait la comtesse Chernavovska, ou à peu près, car il ne se piquait pas de prononcer aisément les langues étrangères, et selon lui, tous les noms polonais ressemblaient à un éternuement. Ce nom de Chernavovska, estropié sans doute, n'apprenait rien à Ladislas. Il consulta vainement ses souvenirs. Il interrogea inutilement l'absent de la haute société polonaise, qui l'aurait sans doute mieux renseigné, quelques habitués du club de la rue Godot. Ce nom, fort connu d'ailleurs et porté par beaucoup de personnes, n'en désignait aucune d'une façon précise. Demandez en France si l'on connaît M. Dupont, on vous répondra lequel. Il y en a 1000. Au reste, le nom n'importait guère. Elle était partie pour la Pologne, pour le seul coin de terre où Ladislas, qui était banni, ne pouvait la suivre. Partie à l'improviste. C'était une coquette, moins que cela encore. C'était aussi une petite sotte. Heureusement, on pouvait aisément se passer de la revoir et l'oublier plus aisément encore. Voilà ce que Ladislas se disait. Mais en pensant qu'il fallait oublier, il se souvenait. Et il se souvenait si bien qu'une semaine après, il était furieux, comme le premier jour. Jusqu'à ce moment, il avait espéré au fond du cœur qu'il lui tomberait du ciel quelque consolation, c'est-à-dire qu'un billet lui arriverait de Pologne. Rien ne vint. La poste, pas plus que le ciel, ne secourut son infortune, et son imagination, excitée par ce dénouement imprévu, se mit à chanter un long duo avec sa vanité blessée. Les heures passaient cependant. Ladislas attendit 3 jours encore, puis une semaine. Enfin, n'y tenant plus, ennuyé de Paris, las des aventures, honteux d'attendre, il résolut de secouer sa tristesse. Un soir, il monta dans la malle-poste de Bordeaux et partit pour les Pyrénées. La poussière des grandes routes a été de tout temps considérée comme un des plus puissants dérivatifs des peines du cœur. En arrivant à Cauterets, Ladislas n'est cependant pas guéri. Il pensait beaucoup encore à son infidèle, et dans ce souvenir, son esprit trouvait un texte inépuisable de réflexions fort diverses. Tantôt, dans ses heures de mécontentement, il jugeait avec sévérité sa belle compatriote. Tantôt, au contraire, il se sentait porté à l'indulgence. En définitive, qu'aurait-elle pu faire? Il n'était pas si injuste que de ne pas admettre telle situation et telles organisations qui font à la vertu un rôle difficile. En définitive, elle était adorable, et il faut que le cœur de l'homme soit un composé bien bizarre, pour qu'il aille chercher toujours des causes de dédain là où il ne devrait trouver que la reconnaissance. La saison des eaux tirait à sa fin et les fraîcheurs de l'automne chassaient les baigneurs des montagnes. Parmi les plus intrépides hôtes de Cauterets se trouvait, comme à l'ordinaire, une quantité de jeunes Espagnols. Ladislas les suivit à Madrid. Il passa 3 mois en Espagne. Quand il revint à Paris, le souvenir de son aventure de Chantilly s'était fort éloigné. Il y songeait à peine comme à un rêve lointain. Il arriva par une de ces soirées de décembre si brumeuses, si désagréable à Paris, surtout pour qui revient des pays du soleil. Le froid vous pénètre, le brouillard vous aveugle, l'air empeste. Il retrouva son appartement sombre et glacé. Il y régnait une insupportable odeur de refrain fermé. Sur le parquet étaient épars divers objets qu'il avait jeté à la hâte 3 mois auparavant en faisant ses préparatifs de départ. Je ne sache rien de plus triste que ce désordre qui vous reporte tout d'un coup à un instant oublieux de votre vie. Pendant votre absence, le temps a jeté sa poussière sur ses souvenirs du passé. Depuis votre départ, votre vie s'est dépensée ailleurs, et vos heures se sont enfuies comme le jour vers lequel vous revenez. Il semble que dans votre existence se trouve une lacune et que vous la repreniez au moment éloigné qui se représente à vous. Ladislas, attristé, ouvrit sa croisée. Son bel acacia avait perdu son vert feuillage. Il avait l'aspect de la mort. Les moineaux, qui se trouvaient plus d'abri dans les branches, se réfugiaient par volées dans les trous des murailles. Les merles avaient disparu. Hélas! Tout cela ne ressemblait guère à cette tiède matinée d'été où il s'était réveillé si joyeux. Et le châle vert revint à sa mémoire. Ladislas pensa à toutes ces choses. Puis il songea encore que ce jour-là était un lundi, et que le lundi était le jour de réception de la princesse A, une de ses plus célèbres compatriotes. Il était reçu comme un fils dans cette maison. Il résolut d'y aller le soir même, pour apprendre un peu les nouvelles de Paris et secouer sa tristesse. La princesse donnait un petit bal. On arrivait donc plus tard que de coutume, c'est l'usage à Paris. En entrant dans le salon, Ladislas s'y trouva seulement les vieux habitués de la maison qu'il reçut avec empressement. Après l'avoir questionné sur son voyage, on l'entraîna à une table de whist. Peu à peu, le monde arriva. Les joueurs se réfugièrent dans un petit boudoir et ils entendirent sans sourciller les quadrilles retentir dans le salon voisin. Ladislas n'était pas d'humeur dansante. Il resta fidèle aux cartes, à la grande satisfaction des têtes grises auxquelles il servait de quatrième. Depuis une heure, il était absorbé par les rois de trèfle et les atouts, lorsque, levant par hasard les yeux, il vit se refléter dans une glace placée en face de lui les têtes de deux jeunes femmes qui passaient en riant. Un moment, elles s'arrêtèrent et la glace renvoya au cœur de notre ami un regard qui le fit bondir sur sa chaise. Il avait reconnu les beaux yeux noirs. « Vous êtes fou, Ladislas !» s'écria un des joueurs. « C'est une renonce !»« Oh, maudit trèfle !» murmura Ladislas. « Oh, je vous demande bien pardon !» Il n'y pouvait plus tenir. Confiant son jeu à un des spectateurs, il se leva en toute hâte. Arrivé à la porte du salon, il jeta un regard rapide sur les banquettes et reconnut bientôt celle qu'il cherchait. Assise en face de lui, la dame aux yeux noirs regardait d'un autre côté. Il la considéra attentivement, se frotta les yeux, il examina encore. C'était bien elle. Dans sa toilette de bal, elle était plus charmante que jamais. Des violettes étaient mêlées à ses beaux cheveux. Ses yeux et son teint avaient à la lumière un éclat surprenant, et l'harmonieux contour de ses épaules prêtait à sa figure une grâce nouvelle. « Monsieur, dit Ladislas à son voisin, qui se trouvait être un dandy de sa connaissance, pourriez-vous me dire quelle est cette jolie femme blonde avec des yeux noirs ?»« Vous devez la connaître mieux que moi, répondit le dandy, car elle est, je crois, polonaise. » Elle est bien réellement polonaise, reprit Ladislas, intrigué au dernier point. Mais bien réellement, à ce qu'on assure, dit en souriant l'interlocuteur, surpris. Et comment se nomme-t-elle? Oh, dame, un nom en cas. Il faut s'étrangler tout exprès avec une arête de poisson pour le prononcer, soit dit sans offenser la Pologne. Je sais seulement qu'elle est comtesse, qu'elle est fort jolie et qu'elle est veuve. Elle est veuve? Mais comment se fait-il qu'elle soit veuve si jeune? Bon, c'est qu'apparemment elle aura perdu son mari de bonne heure. Mais vous avez raison, dit Ladislas. La jeune femme, sans deviner l'entretien dont elle était l'objet, causait gaiement avec sa voisine. Notre amoureux chercha la maîtresse de la maison. « Faites-moi le plaisir de me dire, lui demanda-t-il, quelle est cette ravissante jeune femme ?»« Mais mon cher Ladislas, venez-vous de la lune ?» répondit la princesse. « Non, 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 j'arrive de Madrid, c'est tout. »« Oh, si vous n'aviez pas si longtemps vécu avec les taureaux, vous sauriez qu'il n'est question à Paris que de cette belle comtesse Scherzanska. » Mais elle est donc réellement polonaise? Mais que voulez-vous donc qu'elle soit? Reprit la princesse en riant. Mais, continua-t-elle, comme frappée d'une idée subite, vous la connaissez mieux que personne. Moi? Oh, vous faites donc l'étonner. Mais je vous jure. Mais ne jurez rien. Le château de votre père est voisin de Toupia. Sans doute, oui. Vous avez été élevé avec les enfants du comte Palevski. Eh bien, la comtesse Lvovska, c'est Caroline Patetska. Caroline Patetska? S'écria Ladislas, stupéfait. Oui, Caroline Patetska, dit la princesse. Comme elle est devenue belle! Elle avait 10 ans à peine quand vous avez quitté la Pologne. Il y a 15 mortelles années de cela. Et vous dites qu'elle est veuve? Je pourrais au moins vous le dire. Elle avait épousé il y a 5 ans ce pauvre Czernanowski qui s'est tué à la chasse 15 jours après son mariage. Mais vous avez appris ce mariage et cette mort. C'est vrai, dit Ladislas, retrouvant ses souvenirs. Eh bien, ajouta, je vous ajoute ça en confidence, tout à fait entre nous, hein, qu'elle se remarie. Elle se remarie? S'écria Ladislas. Et pourquoi pas? Voulez-vous qu'avec ses 25 ans et ses yeux-là, elle reste éternellement veuve? Oui, elle se marie dans 1 mois à Berlin. Elle est venue, je crois, à Paris pour de grandes affaires de corbeille. Elle épouse le frère d'une de ses amies, qui a épousé elle-même un officier français, Madame de Mortemer. Madame de Mortemer, vous la connaissez? Oui, je l'ai rencontrée. Eh bien, maintenant que vous voilà bien renseigné, venez que je vous fasse renouer connaissance avec ma belle comtesse. La princesse passa son bras sous celui de Ladislas, qui obéit, tremblant d'émotion, à l'impulsion qui lui était donnée. En voyant venir vers elle la princesse et le jeune homme, qu'elle reconnut tout à coup, la belle comtesse pâlit extrêmement. Ses yeux se dilatèrent, un tressaillement nerveux l'agita tout entière. J'espère, ma chère comtesse, que vous aurez meilleure mémoire que ce jeune homme, dit la princesse, et que vous le reconnaîtrez, lui qui persiste à ne pas vous reconnaître. Moi, madame, balbutia la jeune femme, qui devint tout d'un coup rouge comme une grenade. Voyons, cherchez bien. N'avez-vous aucun souvenir de ce visage? La jeune femme, interdite, jeta sur la princesse un regard suppliant. Mais c'est fort mal à vous, chère belle, d'oublier ainsi vos amis, continua l'impitoyable maîtresse de maison, et des plus vaillants défenseurs de notre pauvre pays. Monsieur est polonais? Hasarda en tremblant la jeune femme. Mais complètement polonais. Vous voilà sur la voie, j'espère. Allons, devinez. Mon pauvre Ladislas, vous êtes oublié, bien oublié. Et vous, chère comtesse, vous n'avez pas la mémoire du cœur. Un ami qu'on a tant aimé, on doit toujours le reconnaître, car vous lui avez dit tu et toi, ce beau jeune homme. En vérité, princesse, murmura la malheureuse jeune femme, tour à tour blanche comme le marbre et rouge comme le feu. Mais vous voilà bien intriguée. Allons, puisque vous ne devinez pas, permettez-moi de présenter à Caroline Patetska Ladislas Vaneski. Ladislas Vaneski? Répéta la jeune femme avec stupeur. Notre ami s'inclina. Tous les deux se regardèrent avec un embarras pareil. La princesse s'éloigna et les laissa vis-à-vis l'un de l'autre. Ladislas s'était distingué dans la guerre de Pologne. Quoique fort jeune alors, il avait affronté 1000 fois les batteries russes. Il ne s'était jamais trouvé dans une situation plus terrible. La jeune femme tremblait et se mourait de crainte. Il en eut pitié. « Je suis seul coupable, madame, » dit-il en s'asseyant auprès d'elle et en essayant de sourire. « Vous étiez si enfant quand je vous ai quitté. Il est tout simple que vous m'ayez oublié. Moi, j'aurais dû vous reconnaître, et pourtant, voici 15 ans au moins que je ne vous avais vu, » ajouta-t-il en accentuant légèrement ses paroles. « Et vous êtes métamorphosé. » La belle comtesse ne répondit pas. Mais il jaillit de ses yeux un regard si doux, si humide, si reconnaissant, que Ladislas se trouva récompensé de sa générosité. En même temps, elle lui tendit la main. Il ôta rapidement son gant et pressa dans sa main nue la main dégantée de la jeune femme. « Depuis combien de temps êtes-vous à Paris ? » continua-t-il, ne sachant trop que dire. « J'y suis arrivé il y a 6 mois, » répondit-elle. « 6 mois, et je ne l'ai pas su !»« Oh !» reprit la jeune comtesse en rougissant, « je n'ai vu personne et je suis resté peu de temps à Paris. J'étais venu avec une amie de pension que des affaires ont rappelée en Prusse. Il y a 1 mois, je suis reparti de Berlin avec elle. Il y a 1 mois, et j'avais la sottise de courir en Espagne. En Espagne ? Répéta la jeune femme en souriant à demi. Le premier embarras surmonté, Ladislas se sentit gagné par un trouble d'une autre nature. Les yeux de velours de la belle comtesse faisaient comme autrefois battre son cœur. Un souvenir charmant le faisait tressaillir. Il était comme enivré par le parfum du gros bouquet de violettes de Parme que tenait cette petite main qu'il venait de presser. « Ne suis-je pas un triple sot, » pensa-t-il, « de laisser prendre dans notre conversation cette ridicule tournure. Elle-même ne me trouve-t-elle pas stupide en me voyant faire ainsi le Don Quichotte ? Mais qui me recommande de renoncer à un bonheur auquel j'ai quelque droit, ce me semble ? » Il hésita un instant. La jeune comtesse, comme si elle eût deviné sa pensée dans son regard, le ramena au présent tout d'un coup avec ce tact si fin qui n'appartient qu'aux femmes. La conversation avait eu lieu jusqu'alors en français. Elle lui adressa brusquement la parole en polonais. Ladislas comprit la délicatesse de cet avertissement. L'idiome national le ramena au pays, au temps passé. Ils parlèrent de leur enfant, de leur jeu d'autrefois. Ils se rappelèrent l'un à l'autre des souvenirs presque effacés. Ils se contèrent comment leur vie s'était écoulée durant les 15 années de séparation. Une heure se passa ainsi. Mais, ramené à la situation présente par le cours même de la conversation, Ladislas sentit renaître en lui la pensée séduisante qui couvait dans son imagination. L'idée du mariage prochain de la jeune comtesse apparut en même temps à sa mémoire, et le serpent de la jalousie le mordit au cœur. « Au diable les élégies » pensa-t-il. Joseph et Hippolyte étaient déroués à côté de moi. Il regarda fixement la jeune femme, et il allait parler quand un accord bruyant du piano lui coupa la parole. Une des valses les plus entraînantes de Strauss retentit à grand renfort de cornets à piston. « Voulez-vous valser ?» demanda tout d'un coup la jeune comtesse en se levant avec cette grâce qui la distinguait. « Vous vous souvenez que nous avons appris ensemble ?» Bientôt, tournoyant tous les deux, ils se perdirent dans le tourbillon des valseurs. Quelles que fussent les sensations de Ladislas en sentant contre son visage les cheveux parfumés qu'il effleurait, et dans ses bras cette taille souple et divine, il resta insensible en apparence. Si leurs mains se serrèrent un peu plus qu'il n'était nécessaire, il n'y eut dans cette pression rien qui pût déterminer une intention formelle, et si, après la valse, le visage de la jeune femme était pourpre, on pouvait l'attribuer à la rapidité du mouvement. « Adieu, lui dit-elle en retournant à sa place, je suis fatiguée, je vais partir. » Il l'accompagna jusqu'à l'antichambre. « Vous reverrai-je ? » demanda Ladislas. « Je pars, je quitte Paris pour toujours, » répondit-elle en rougissant. « Alors faut-il donc vous oublier ?»« Non, » dit-elle. « Gardez-moi une place dans le coin le plus secret de votre cœur, Ladislas. » Et ce nom qu'elle prononçait pour la première fois avait dans sa bouche une douceur infinie. « Je la mérite, » ajouta-t-elle, en levant vers lui ses beaux yeux humides. « La voiture de Madame la Comtesse Gerzalvowska !» cria à haute voix un valet de pied. La belle comtesse, sans rien ajouter, tendit la main à Ladislas, qui la pressa tendrement dans les siennes. Ils mirent de part et d'autre tant d'effusion dans cette étreinte que c'était presque un baiser. La jeune femme sortit rapidement et notre amoureux resta pensif un instant, les yeux fixés sur la porte qui venait de se refermer. Il apprit le surlendemain que la comtesse Gerdanowska était partie pour Berlin. Il ne l'a jamais revue. Je veux dire, madame, qu'il ne l'a point revue à Paris. Notre ami est maintenant en Pologne. A-t-il retrouvé sa vision? Je ne le sais. Et s'il l'a retrouvé, que se sera-t-il passé? Je l'ignore absolument.